D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. Carlo Emilio Gadda. Gadda avec ce double D qui semble marquer une hésitation, un ricochet, une ironie. Gadda qui a écrit un roman à double D, si je puis dire, avec un double crime, un double langage et, désormais en France, une double traduction. Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana, publié en Italie en 1957, a été traduit par Louis Bonalumi en 1963 sous le titre « L'affreux pastis de la rue des Merles ». Une nouvelle traduction de Jean-Paul Manganaro vient de paraître sous le titre « L'affreuse embrouille de la Via Merulana ». Gadda lui-même était double. Lombard, il est né à Milan, il a vécu et est mort à Rome où se passe son roman. Sa famille, qui était aisée, a été plus ou moins ruinée par son père. Voulant faire des études littéraires, il a dû en faire deux pratiques pour gagner tout de suite sa vie. Étant devenu ingénieur, c'est arrivé à d'autres écrivains comme Laclos, Boris Vian ou Rob Grier, il a abandonné ce métier pour étudier la philosophie, comme Italo Calvino qui avait entrepris des études d'agronomie pour ensuite étudier la littérature. Or, quand on fait de la littérature, on ne gagne pas glorieusement sa vie et Gadda a dû prendre un métier et il a travaillé à la RAI. Écrivant et publiant beaucoup dès la fin des années 20, il parlait de son pasticciaccio qu'il n'achevait pas. Il en a fait une première publication en 1946 dans la revue Littérature, puis l'a remanié pendant 11 ans. La version actuelle compte 10 chapitres. On dit d'ailleurs que son éditeur Garzanti a publié en 1957, sans attendre, une version inachevée, se disant que Gadda ne finirait jamais son livre. Et en voici la première phrase de ce fameux livre, dans la traduction de Jean-Paul Manganaro. Tous l'appelaient désormais Don Ciccio. C'était le docteur Francesco Ingravallo, détaché à la garde mobile. L'un des fonctionnaires les plus jeunes et, on ne sait pourquoi, jalousé du bureau des enquêtes. Doué d'ubiquité, omniprésent dans les affaires ténébreuses. De taille moyenne, plutôt replet de sa personne, ou peut-être un peu trapu, les cheveux noirs, touffus et crépus, qui semblaient sortir à mi-hauteur de son front, comme pour abriter du beau soleil d'Italie ses deux bosses métaphysiques. Un élément singulier et très visible de ce livre dont nous parlerons, c'est son emploi du dialecte romain. Un autre, plus important peut-être, est l'usage des deux points, un usage qui semble très personnel, mais dont je ne suis pas sûr de bien voir la logique à chaque fois. Premier exemple, au centre de tout le système ptolémaïque, deux points, oui, ptolémaïque. On voit là que Gadda marque une hésitation, puis une assurance. Deuxième exemple. Dans l'entrée et dans la loge, une autre petite foule de locataires de l'immeuble. Deux points, le caquetage des femmes. Là, c'est évidemment une ellipse qui lui permet d'éviter les mots « et l'on entend ». Mais quel est le sens des deux points dans le troisième exemple que voici? Les poignées des portes, le marbre de la commode. Deux points, le carrelage luisant. Quel est le secret enfin de l'affreuse embrouille de la traduction de l'affreuse embrouille de la Via Merulana? Je reçois donc, pour en parler, Jean-Paul Manganaro, son traducteur, qui a également traduit du même Gadda, la Madone des philosophes, et l'Adalgisa, les croquis milanais, les trois volumes au seuil. Jean-Paul Manganaro, pour commencer, je voudrais que nous parlions de Gadda lui-même. J'ai dit qu'il a fait la première traduction de son roman dans Littérature. Qu'est-ce que c'était cette revue?
C'était une revue littéraire italienne qui surgissait à l'ombre du fascisme, très à part, recevant vraiment de personnalités qui deviendront de grands écrivains en Italie. C'était un peu une revue de niche, en quelque sorte, un peu mal connue, mais qui aussi donnait quelques prix littéraires, en fait, dont un gagné par Gadda en 1931, à propos de la Madone des philosophes. Donc c'était une littérature très réservée que connaissaient seulement les intellectuels. Et c'est dans cette revue littérature que Gadda publie presque tout ce qu'il a écrit jusque-là, jusqu'en 1946-1947. Et la version de 1946 dans Letteratura est quand même assez différente, surtout parce qu'il y a une présence excessive de points de suspension, non pas de deux points, mais de points de suspension, que Gadda élimine ensuite dans la version, dans la deuxième version, en fait. Voilà.
Est-ce que lui-même, à l'époque, faisait-il partie, c'est-à-dire au moment où il a publié la première version de l'affreuse embrouille, et après, quand il est arrivé à Rome, il faisait partie d'une bande d'écrivains? C'était une époque où ça existait souvent?
Non, il ne faisait partie d'aucune bande parce qu'il était extrêmement solitaire, c'était vraiment un loup. D'ailleurs, Montal lui reprochait assez souvent. Il n'appréciait personne, en fait. Hein. Lorsque, à la fin des années 50, il commence à fréquenter Pasolini, ou plutôt c'est Pasolini qui commence à fréquenter Gadda, et c'est vraiment une récupération. Et la seule personnalité qu'il ait vraiment fréquenté, c'est Piero Citati, qui était d'ailleurs le conseiller littéraire de Garzanti, en fait.
Je voudrais qu'on reste un instant sur Pasolini. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites une récupération? Je crois qu'ils se sont connus en 53. Et je veux juste donner les dates pour qu'on ait conscience des différences d'âge, puisque Gadda est né en 1893 et oui. Pasolini en 1922. Donc il y avait deux générations d'écart.
Bien sûr, oui. Pasolini découvre la grandeur de Gadda à travers, en particulier, la connaissance de la douleur, la cognizione del dolore, et ensuite par le pasticciaccio. Et d'ailleurs, l'expérimentation littéraire de Pasolini avec les ragazzi ou une vie violente se fait presque à côté de celle de Gadda. C'est l'influence de Gadda qui incite Pasolini à écrire ces deux romans de la manière dont il les a écrits, en fait.
Car il faut dire, Jean-Paul Manganaro, que les Ragazzi, Ragazzi di Vita a été écrit en grande partie en dialecte aussi, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr, en dialecte romain d'ailleurs. Oui. Mais ce n'est pas du tout le même romain qu'utilise Gadda. Hein. Celui de Gadda est beaucoup plus soft, on dirait, aujourd'hui, en fait.
Et alors, j'ai lu que Gadda a siégé dans le jury d'un prix qui n'est pas majeur, mais qui est le prix Colombi Guidotti, c'est ça, et qui a donné son prix au Ragazzi. Est-ce que c'est exact?
Oui.
Donc ça veut dire que Gadda avait assez d'estime pour le très jeune, pour relativement à son âge, Pasolini.
Évidemment, il se fréquentait à la fin de la vie de Gadda. Hein. C'était Goffredo Parisse et Pasolini qui le promenait en ville, en fait. Hein.
Alors, je crois que le succès public lui est venu avec Pasticciaccio, n'est-ce pas?
Avec le Pasticciaccio, oui.
Et je crois qu'il avait 63 ans. C'est assez tard pour avoir un succès, mais au moins il l'a eu. Est-ce qu'on sait comment il a pris ça? Parce que quand on est écrivain et qu'on a l'habitude du succès d'estime, mais pas du succès public, finalement on s'y habitue et c'est pas si grave de pas avoir de succès public. Comment lui, ça lui est arrivé?
Écoutez, je vais vous dire que sa réaction était celle de commenter l'événement en disant « Voilà, enfin ma sœur croira que je suis un auteur. » c'est tout vous dire, en fait.
Oui.
Alors, non, mais évidemment, il était très content. Bon, c'était quand même quelqu'un qui n'était pas très riche. Il avait abandonné une famille relativement aisée pour vraiment écrire, pour ne pas avoir de culpabilité sur le dos. Et le fait d'avoir un peu d'argent a été pour lui extrêmement important. L'œuvre de Gadda a été méconnue parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile, aussi bien du point de vue des thématiques que de l'écriture. C'est une écriture où il faut être extrêmement cultivé pour comprendre les connexions, toute la machinerie que ça implique, en fait. Hein.
Est-ce que vous voulez me raconter, pour les gens qui nous écoutent, l'histoire de l'affreuse embrouille de la Via Merulana, succinctement, je crois que ça se passe en mars 1927, exactement.
Oui, ça se passe en 1927. L'histoire relate deux crimes, un vol de bijoux auprès d'une comtesse vénitienne, et trois jours après, sur le même palier de la même maison qui se trouve justement rue des Merles, via Merulana, le meurtre d'une dame amie avec le commissaire qui va gérer l'affaire. En fait, il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ça, mais l'histoire roule autour du commissaire Ingravallo, Ciccio Ingravallo, auquel on demande de dénouer l'affaire. Et alors, tout ça traîne en longueur. Alors tout ça, évidemment, est tenu ensemble par toute une série de réflexions très digressives par rapport à l'œuvre. C'est une des manières de Gadda de garder tout le temps une espèce de suspension constante de l'événement. On trouve les bijoux parce qu'on peut les rendre. On ne trouve pas l'assassin parce qu'on ne peut pas rendre la vie à la victime. Ça, c'est une constatation liminaire. Mais en même temps, c'est une grande critique faite au corps investigatif de l'Italie de l'époque, c'est-à-dire la police et les carabiniers. Il y a toute une...
C'est une satire ?
Bien sûr, il y a une satire sur les corps de police, en fait, oui.
Dites-moi, il y a quand même une question importante qui est le nom de cette via Merulana. Vous-même, à l'instant, vous avez parlé de la rue des Merles. La première traduction s'appelait rue des Merles. Expliquez-moi un peu si Merulana, en italien, ça veut dire la rue des Merles ou c'est la rue Merulana. Qu'est-ce que c'est que cette rue ?
Merulana, c'est la rue des Merles, oui. Ça vient de Merula, en latin, qui est le merle.
Ça n'est pas de l'italien, alors c'est du romanesque.
C'est du romanesque, oui.
D'accord.
C'est du romanesque. Mais aucun italien ne sait que la via Merulana signifie rue des Merles.
Ah. Mais alors, pourquoi est-ce que vous avez pris le parti, vous, de ne pas traduire le nom comme ça avait été fait dans la première traduction ?
Bon, alors, une précision qui me paraît importante, c'est que le traducteur n'est jamais responsable du titre.
Ah.
Le responsable du titre, celui qui veut le titre, est toujours l'éditeur.
Mm-hmm.
Donc, c'est une question qu'il faut poser à l'éditeur, auquel j'ai essayé de résister pour imposer l'ancien titre qui me paraissait plus convenable. Enfin,
ah, vous auriez été pour garder via rue des
oui,
Merles.
Oui, oui.
D'ailleurs, vous-même, page 95, vous mentionnez, vous employez l'expression rue des Merles, vous l'avez conservée une fois.
Oui, bien sûr, pour me faire comprendre ce que c'était.
Ah, quoi, ça veut dire que le seuil n'a pas voulu garder rue des Merles.
Le seuil voulait un nouveau titre, voilà.
Ah, donc, c'était du commerce. Pour en rester sur cette question du romanesque, le titre lui-même le dit, quand je dis « quer pasticciaccio », quer, c'est pour dire « questo » en dialecte
oui,
romain, n'est-ce pas ? Donc tout ça, dès le titre, ça veut dire que c'est un livre qui est archi-romain, si je puis dire.
Mais c'est pas vraiment... le titre est romain à deux moments. « Quer » est « de ». « De », c'est une élision qui est propre au romanesque et pas à l'italien. C'est quand même du grand italien par moment, hein, du très grand italien, mais qui est brodé constamment dans ces parties de dialogue indirect de romain. Mmh. Alors que tous les dialogues directs sont toujours en dialecte romain, tantôt en napolitain, tantôt en molisan, etc. Bon, il y a ce mélange de dialectes du centre de l'Italie, en quelque sorte, qui explique aussi quelle est la société, le type de société romaine de cette époque. Il ne faut pas oublier que c'est quand même le fascisme, et que c'est surtout un livre aussi contre le fascisme.
Car, est-ce que je me trompe si je dis que l'utilisation des dialectes était non pas interdite, mais du moins très réprouvée sous le fascisme ?
Oui, de même que les langues étrangères. Les langues étrangères, il fallait parler italien, avec un certain nombre de règles extrêmement strictes. Tout cela ne servait à rien. Aujourd'hui encore, les Italiens parlent parfaitement le dialecte, à côté de l'italien. D'ailleurs, ils parlent mieux le dialecte que l'italien, puisque l'italien qu'ils parlent est celui, en gros, de la télévision. Et c'est contre tout ça, d'ailleurs, que Pasolini et Gadda écrivent, en fait. Hein.
Bien sûr. Comment traduit-on un dialecte que tous les Italiens comprennent, et qui est, enfin, les Romains, évidemment, je crois, le reste des Italiens aussi, et qui est pour eux une langue naturelle. Et il y a évidemment des caractéristiques très, très singulières dans le romanesque, comme dans tout dialecte. Et comment est-ce que vous avez travaillé pour rendre ça dans la langue française ?
Écoutez, la réponse est incertaine et difficile, je dirais. Disons que l'expérience que j'ai de la traduction, j'en suis à 45 ans d'activité, le fait d'avoir traduit déjà 7 titres de Gadda, l'Analgisa par exemple, est souvent... balayé par du milanais. Alors, j'ai toujours essayé d'avoir une langue qui serait compréhensible aux Français qui parleraient éventuellement romain, ou vice-versa, enfin. Mmh. Une espèce de romain qui serait parlé par des Français, en fait. C'est une question d'imitation, l'imitation de quelque chose, d'une série de sonorités, par agglutination, par répétition, par élision, qui donne une langue qui me paraît tout à fait compréhensible en français, tout en déclarant une distance. Je pensais plutôt à San Antonio, si vous voulez, éventuellement. Donc c'est une opération effectivement phonétique, hein, que, ouais. Une orchestration à partir d'une série d'éléments sonores qui doivent résonner.
Nous allons maintenant entendre un extrait du film que Pietro Germi a tiré du roman de Gadda, ou Maledetto Imbroglio, en français Meurtre à l'italienne, avec Claudia Cardinale et Franco Fabrizi. C'était en 1959.
Polizia!
Subito!
Al ladro! Acchiappatelo!
Eccolo là!
Acchiappalo!
Commendatore!
Siamo qui!
Commendatore è ferito!
Male, commendatore! Oddio mio! Non è mica ferito!
Un bicchierino, commendatore!
Calma, calma!
Sì,
abbiamo già chiamato la questura!
No, 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 sì,
non
ho
abbiamo
bisogno
già chiamato
di niente, grazie!
Si qualcosa che avete visto sul cuore?
No, no, grazie, comodi, grazie!
Sì, un bicchierino, sarà.
Che è successo? Chi è una mazzata?
Un pezzo grosso del comune dice che mo' buona resta tutti gli scopini!
Permesso!
Brigadier! Questi dicono che devono mangiare, che faccio?
È buon appetito.
Grazie.
Permesso.
Diomira dice che ha visto il ladro uscire a precipizio. Lei allora gli ha gridato, ma lui tela.
Permesso.
Allora ho preso il mio revolvere e senz'altro là.
Calma, nonno.
Come si permette lei?
Ma ce l'ha il porto d'armi?
Sono il generale Pomiglia io.
Ah, beh, allora.
Generale! Scusi, generale, ma dice qui il commendatore Anzaloni che...
Jean-Paul Manganaro, comment était cette adaptation par Germi du roman de Gadda? La réponse est faite.
Non, intéressante, non, parce que Germi est quand même un auteur intéressant, mais je crois qu'il n'a pas du tout aimé Gadda, humainement. Il y a eu quelque chose d'hostile entre eux. Je ne sais pas quoi exactement, mais enfin, une question d'antipathie.
Est-ce que c'est vrai, j'ai vu dans une interview, qu'il l'aurait trouvé intellectuel dans un sens péjoratif? C'était une question de complexe, comme ça de...
Mais il y a quand même une différence générationnelle extrêmement importante. Puis, Gadda était vraiment très, très, très particulier.
Mais quand vous dites très particulier, ça veut dire quoi? Il était désagréable?
Très distant, jusqu'à pouvoir être désagréable éventuellement, oui.
Alors, je voudrais en revenir, pour revenir à votre traduction de ce livre si difficile à traduire, Jean-Paul Manganaro, sur la question des deux points que je citais dans mon introduction avec des exemples. Il me semble que parfois, ces deux points sont assez faciles, on comprend facilement leur intention et parfois moins. Quelle est votre idée là-dessus ?
Mon idée là-dessus, elle est assez précise, c'est-à-dire que le discours pour Gadda doit refléter le plan du réel. Or, le plan du réel ne se constitue pas en une dialectique constante, qui est souvent la fonction du point virgule et des deux points, mais que toutes les choses sont alignées sur le même plan. Il n'y a pas de consécution, il n'y a que la réunion de tous les faits ensemble, tous alignés sur le même plan, sans aucune échelle de valeur entre une proposition et l'autre.
Oui, mais pourtant, il pose des points finaux à des phrases, et ça, c'est une logique imparable.
Bien sûr, bon, parce qu'il faut, quand même.
Non, mais il aurait pu ne pas le faire, par exemple, il aurait pu faire comme Joyce, des pages, 40 pages de monologue sans ponctuation.
C'eût été trop compliqué pour les Italiens, peut-être. Mais les deux points sont importants.
Il y a chez lui une intention avec les deux points de casser quelque chose de régulier dans la langue italienne, c'est ça que vous voulez dire ?
Non, c'est pas ça. C'est la valeur des choses exprimées ne se transforme pas en une dialectique immédiate. Les choses sont identiques. C'est ce qu'il dit dans l'introduction, ce que le commissaire dit dans l'introduction. Les faits, les causes sont multiples et elles sont toutes également valables. C'est ça, il n'y a pas une cause, il y a des concauses, une multiplicité de causes qui se valent toutes entre elles. Dans ce sens, les deux points acquièrent une valeur tout à fait différente qu'une, disons, ponctuation plus régulière.
Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas y voir, comme la plupart du temps, un signe para-explicatif, en quelque sorte.
Bien sûr, oui, non, pas de dialexis, en fait.
C'est ça.
Mais en même temps, ça permet de introduire dans les choses, justement, leur inégalité, en les faisant identiques, en les rendant identiques. C'est quand même éblouissant, cette manière que Gad a d'exprimer des choses extrêmement hautes, et puis de plonger immédiatement dans la trivialité la plus forte, enfin bon.
Ça, le dialecte l'aide aussi à ça, je présume.
Disons que c'est son expression vive. Hein.
Alors, pour en rester à son expression vive, Jean-Paul Manganaro, il y a une chose qui me frappe dans l'affreuse embrouille de la Via Merulana, c'est la férocité physique des descriptions de Gad. Je pourrais en citer, mais des exemples à n'en plus finir. Par exemple, Madame Menegazzi, qui est en négligé imprévu entre japonais et madrilène, une moustache bleutée sur son visage plutôt fané, la peau pâle comme celle d'un gecko enfariné. Après Monsieur Philippot, le ventre en forme de poire et les épaules rabougries. Enfin, il est assez physiquement méchant et de manière assez générale, d'ailleurs assez égalitaire, les hommes, les femmes, tout le monde y passe. Il y a une espèce de férocité chez lui, non ?
Oui, tout le monde y passe, y compris les poules d'ailleurs. mais il y a quand même deux femmes exquises, deux femmes divines. Une, c'est Liliana Balducci, la non-protagoniste, puisqu'elle meurt dès son entrée dans le roman, en quelque sorte. Et Inès. Inès est une femme qui est délicatement, très délicatement décrite. C'est très beau ce qu'il dit. Mais c'est vrai qu'il est méchant. Il a un coup de pinceau extrêmement violent vis-à-vis de l'humanité. C'est tout à fait le signe de sa misanthropie fondamentale. Et c'est effectivement aussi bien les femmes que les hommes qui paient cette affaire, en fait.
Est-ce que cette misanthropie, qu'on pourrait dire un peu flaubertienne et un peu, au fond, classique, les romanciers réalistes, en tout cas français, de la fin du XIXe siècle, étaient très souvent comme ça, mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que c'est la marque d'une espèce de détachement sarcastique qui mènera à une espèce de littérature comme celle de Thomas Pynchon, par exemple, où j'anticipe beaucoup trop les choses ?
C'est surtout l'intérêt pour le grotesque. C'est l'intérêt pour le grotesque qui a le devant de la scène. Enfin, toute tragédie ne peut finir qu'en grotesque. Enfin, c'est un peu l'idée. Il y a une manière de dessiner chez Gad. Et qui a à voir vraiment avec cet aspect extrêmement grotesque, vous avez parlé de férocité, oui. Je crois que c'est le grotesque, en fait.
D'accord.
Comme genre, qu'on peut retrouver chez beaucoup de dessinateurs.
Presque de la bouffonnerie, vous voulez dire ?
C'est un peu comme Callot, Jacques Callot. Comme certains peintres grotesques du surréalisme, du surréalisme italien, oui.
Il y a une question un peu à propos de Gada, où il a l'air d'esquiver quelque chose, lui qui esquive assez peu. On dit qu'il y a une légende qui court, c'est que Gada aurait censuré un chapitre dans son roman, que lui-même était gay et qu'il n'a pas, à part à un moment, par le personnage du Commendatore Angeloni, si je ne me trompe pas, évoquer cette question. Est-ce que c'est purement légendaire, ça, ou vous pensez que c'est exact ?
Je ne sais pas, je ne la connais pas d'ailleurs, de cette histoire, mais en fait, en tout cas, l'histoire de M. Angeloni, elle existe déjà dans la littérature, dans la version de la littérature, elle est reportée presque telle qu'elle dans la deuxième affaire. Je voudrais revenir sur le grotesque, parce qu'il y a quand même une chose très importante dans ce roman, c'est que la mise en grotesque frappe surtout Mussolini, qui n'est jamais cité avec son nom, mais toujours avec des surnoms infâmes, enfin, ou infamants.
Par exemple,
voilà. Oh, J'ai pas le livre ici, excusez-moi, pardonnez-moi.
Non, non, pas du tout. Mais d'ailleurs, c'est une chose qu'il applique aux autres aussi, pas car, sauf erreur, Hitler n'est pas nommé, il l'appelle le moustachu.
Le moustachu, moi, ouais. En fait, c'est encore très gentil. Oui. L'autre, il l'appelle, je sais pas, la tête de mort, par exemple, c'est le seul qui me revient, mais enfin, il y a une liste, la liste est très longue, et il n'est jamais nommé. C'est dans ce sens aussi que le grotesque doit frapper le fascisme. Ce n'est pas par hasard que le roman se situe en 1927, au moment où, effectivement, Mussolini ne supportait pas qu'on vole en Italie ou que les crimes restent impunis.
En même temps, est-ce que cette façon de ne jamais nommer, et sinon par des surnoms des allusifs, épithètes, oui. Des épithètes, est-ce que ça n'est pas aussi une manière très fine de Gadda de nous dire, puisqu'après tout le roman se passe en 1927 et qu'il ne peut pas intervenir rétrospectivement, est-ce que ce n'est pas une manière de nous dire que le peuple italien sous le fascisme ne pouvait pas critiquer ouvertement et était donc obligé de passer par des périphrases ?
Peut-être, oui, mais enfin, c'était relatif. Disons que beaucoup d'Italiens ont aimé Mussolini, quand même.
Dites-moi, Jean-Paul Manganaro, ce roman a été un succès, et nous savons que, je crois, tout grand succès d'un livre littéraire, comme disait Malraux, part d'un malentendu. Alors, si c'est le cas pour Gadda, où serait le malentendu ? Est-ce que ça voudrait dire qu'on a cru à un roman pittoresque, à une sorte de Marcel Pagnol romain ?
C'est loin de Marcel Pagnol.
Oui, je sais bien, mais je sais bien que c'est beaucoup mieux. Mais je veux dire, justement, est-ce qu'il n'y a pas eu un malentendu ? Est-ce qu'on n'a pas pu croire que c'était un roman sympathique et pittoresque ?
Moi, j'aime beaucoup le mot que vous avez utilisé, malentendu, c'est-à-dire entendu mal. Voilà, mal compris. Parce que la prose de Gadda est très difficile. C'est ça l'essentiel.
Des Italiens ? C'est-à-ire de la question du dialecte
Il faut être cultivé, voilà. Bon, si on méconnaît la langue italienne, Gadda devient extrêmement lourd et difficile, en fait.
Vous êtes en train de nous décourager de le lire en français ?
Non. Mais bon, d'abord, il est traduit. C'est-à-dire, il est minoré, en quelque sorte. Non, mais c'est vrai que les Italiens font semblant de lire Gadda, voilà.
Mais un peu comme les Irlandais font semblant de lire Joyce.
Voilà,
c'est ça. Voilà.
Si ça c'est malentendu.
Ouais. Pour finir, Jean-Paul Manganaro, outre le désordre de la vie dont les romans noirs nous parlent, et que d'ailleurs vous autres Italiens appelez jaune, gialli, est-ce que le secret professionnel de l'affreuse embrouille de la vie à Merulane serait-il qu'il est la destruction de l'intérieur d'un genre littéraire, dans le sens où il n'y a pas de résolution du meurtre, et même, au-delà de ça, une destruction de l'idée de destin?
Bien sûr, oui, tout à fait. Mais en même temps, il y a quelque chose qui avance là, pas rapide, en quelque sorte, c'est que l'écriture a tout dit de ça. L'écriture, au sens vraiment de fabrication de l'œuvre, absorbe toute la matière et donc il n'y a plus rien à dire. Voilà. Dans ce sens, on ne trouve pas l'assassin. On ne trouve pas l'auteur.
C'était Secret professionnel 243e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel de l'architecture brutaliste. Réalisation Nathalie Salle, attaché d'émission Daphné Abgral, prise de son Olivier Dupré. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.